Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, qui a revendiqué hier soir l'attaque lancée dimanche contre le campement Kangaba, ce complexe hôtelier situé à l'est de Bamako, à quelques kilomètres de la capitale. Une attaque qui confirme évidemment que le sud du pays, et notamment la capitale, n'est pas épargné par la menace djihadiste, malgré l'état d'urgence qui est en vigueur quasiment sans interruption depuis maintenant un an et demi, depuis l'attaque en novembre 2015, contre l'hôtel Radisson qui avait fait, je vous le rappelle, 20 morts. Alors dites-nous comment vous qui êtes sur place à Bamako et de façon plus générale au Mali, comment vous vivez cette menace djihadiste, comment vivez-vous la dégradation de la situation sécuritaire? Nous vous donnerons la parole durant les 20 prochaines minutes, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme promis, nous retrouvons l'un des correspondants d'RFI au Mali, Anthony Fouchard, toujours avec nous.
Toujours Marouane.
Et vous nous disiez juste avant le journal de Jérôme Bastion que la menace terroriste était omniprésente et que des attentats comme celui de dimanche étaient malheureusement difficilement évitables.
Effectivement, c'est ce que je vous disais. On vit avec une menace terroriste permanente ici au Mali. Par contre, des mesures ont été prises. Elles ne sont pas négligeables. Il faut les souligner. Notamment, vous l'avez dit, depuis l'attentat du Radisson, eh bien, le Mali a créé une unité spéciale antiterroriste composée de près de 200 hommes triés sur le volet. Ce sont ces soldats d'élite qui sont bien mieux équipés que la moyenne malienne, qui sont intervenus dimanche lors de l'attentat pour lancer l'assaut sur ces terroristes. Et ce sont toujours ces mêmes soldats qui ont traqué toute la soirée et une bonne partie de la nuit les assaillants qui s'étaient retranchés sur le site et dans les collines environnantes.
Oui, les soldats des forces spéciales antiterroristes, les FORSAT. Merci Anthony Fouchard de ces dernières précisions. Amidou sur Facebook nous dit que cet attentat est déplorable, mais il a permis justement aux FORSAT, aux forces spéciales antiterroristes, de démontrer leur capacité de réaction. Le point faible du dispositif sécuritaire, nous dit cet auditeur, ce sont les policiers qui, au lieu de procéder aux fouilles réglementaires des voitures, passent leur temps à racketter les pauvres citoyens. Même si tu détiens une arme, écrit Amidou, il suffit de glisser un billet et tu continues ton chemin. Fin de citation. Au standard, Nama est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gomes.
Vous êtes à Bamako, effectivement. Et après cette attaque, celle de dimanche, vous vous posez plusieurs questions.
Absolument, mais avant, très rapidement, permettez-moi, vous faites bien, vous, n'est-ce pas, de rappeler que c'est bien le campement de Kangaba et non le camp de Kangaba, comme disait, n'est-ce pas, bon nombre de vos confrères hier soir.
D'accord.
Le camp de Kangaba, il n'y a pas de camp à Kangaba. Kangaba, c'est à 90 km de Bamako,
oui.
Sur la route de Guinée, alors que le campement de Kangaba, pour ceux qui connaissent un peu le Mali, c'est sur la route de Ségou, à 3 km de Bamako, donc diamétralement opposé.
Effectivement, vous faites bien de préciser, il y a peut-être eu effectivement quelques erreurs dites à l'antenne, et vous êtes là évidemment, vous qui êtes sur place, pour nous apporter des précisions. Quelles sont les questions que vous vous posez au lendemain de cette attaque?
Oui, moi je me dis, Yann, c'est vrai, on salue, n'est-ce pas, la réactivité des autorités, le ministre, les forces spéciales. Ce ministre, il fait différemment, contrairement, n'est-ce pas, à certains de ses prédécesseurs, soit dit en passant. Mais je me dis, alors, il y a eu les attaques au niveau de Radisson, au niveau de la terrasse, puis au nord-sud. Alors, très généralement, on sait bien que ces attaques-là sont dirigées pour la plupart contre les Occidentaux. Et on savait aussi bien que les Occidentaux aimaient, n'est-ce pas, ce coin, le campement Kangaba. Parce que c'est un peu excentré au bord de, disons, au flanc de la colline.
Mm-hmm.
Alors, je me dis, mais puisque déjà, on est dans un pays, je dirais, en guerre, où il y a toujours des attaques terroristes récurrentes, alors qu'est-ce qu'on n'a pas, pourquoi on n'a pas pris toute la mesure, n'est-ce pas, de sécuriser ce lieu-là? Parce que avec les vigiles, c'est pas suffisant. On vient, il y a le portique, d'accord, mais vous savez bien, il y a toujours des relâchements à ce niveau-là. Mais c'est-à-dire qu'une sécurité bien renforcée à ces endroits-là, pourquoi qui sont déjà, on le savait, et fréquentés par les Occidentaux qui sont les premiers cibles. Donc je me dis pourquoi on n'a pas pris toute la mesure.
Alors,
je me dis, et pour l'État.
Donc vous pointez du doigt donc les mesures de sécurité mises en place autour de ce campement, de cette résidence hôtelière. C'est pas vraiment une résidence, c'est un écologe pour dire clairement les choses. Alors ne raccrochez pas parce qu'on a Ali qui est à Bamako et Ali qui nous disait au Standard il y a quelques minutes avoir eu l'occasion de s'y rendre à plusieurs reprises. Bonjour Ali.
Bonjour Juan.
Et justement, Nama parlait à l'instant des mesures de sécurité insuffisantes, selon lui, autour de ce campement. Vous qui êtes allé sur place, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous vu exactement?
Mais tout à fait, Juan. Moi, j'ai un ami qui m'a parlé de ça il y a 2 semaines, qui me disait qu'il allait sortir à Kangaba. Et je lui avais très vivement déconseillé en lui disant que bon, c'était pas le moment d'aller là-bas parce que moi, j'y avais été plusieurs fois. Et je me rappelle, c'est une petite anecdote, avec mon épouse, la dernière fois, on y était. Et on a commencé à causer avec les gens qui font la sécurité. On leur avait dit, mais comment se fait-il que vous fouillez notre véhicule et vous n'avez pas de chien? Alors comment est-ce que vous allez renifler des explosifs? Ça, c'était un. De deux, ils n'étaient pas armés. Et de trois, pour un coin qu'on, tout le monde sait, tellement fréquenté par les Occidentaux, pourquoi ne pas mettre une garde nationale ou quelque chose comme ça? Et en tout cas, la sécurité n'était pas bien. C'est pas pour faire une mauvaise publicité au coin, qui est très très bien d'ailleurs. Mais avec les conditions du pays, je pense que le coin aurait été beaucoup mieux sécurisé. Ouais. Aurait pu être.
Et est-ce que ça signifie, et je ne parle pas spécifiquement évidemment de ce campement, mais est-ce que ça signifie que l'ambassade américaine au Mali avait raison lorsqu'il y a une dizaine de jours, elle avertissait ses ressortissants de menaces d'attaque à Bamako contre des sites fréquentés par des Occidentaux?
Oui, ben ça j'avais pas entendu, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui l'information ne passe pas aussi bien à Bamako avec la coupure de Facebook et tout ce qu'il y a comme atteinte à l'information en ce moment au Mali. Je peux vous faire une petite critique aussi, hein, parce que je sais que c'est pas opportun, c'est pas le moment de le faire, parce qu'avec une attaque comme ça, il faut plutôt présenter des condoléances. Mais l'information ne passe pas assez au Mali de un. De deux, bon, le Mali, comme on dit, hein, c'est déjà une cible depuis, disons, la première attaque à Bamako, c'était en 2014, je pense, avec la terrasse. Bon, avant ça, on ne connaissait pas ça, hein, même avec les autorités intérimaires qu'il y avait au Mali pendant la transition, on n'avait jamais connu d'attaque à Bamako. Donc, on pensait que déjà, avec ce pouvoir-là bien installé, avec des élections, que la situation aurait été beaucoup mieux. Bon, ça c'est un tout autre sujet, mais bon, vous voyez qu'aujourd'hui on parle encore de référendum et tout autre chose, alors que bon, vous voyez que c'est pas la priorité.
Oui, effectivement, et vous êtes plusieurs hein, sur la page Facebook à pointer du doigt le fait que la tenue d'un référendum dans moins de 3 semaines est loin d'être la priorité numéro 1 des Maliens, référendum constitutionnel, je le précise tout de même, et que la priorité numéro 1, c'est évidemment de garantir la sécurité, de mettre les moyens nécessaires pour que les Maliens puissent se sentir en sécurité. Sécurité. Avant d'accueillir Oumar, qui lui nous appelle de Sikasso, je redonne la parole très rapidement à Nama. Nama, est-ce que vous avez l'impression malgré tout, vous qui êtes à Bamako, de vivre dans la sécurité? Il y a des moyens qui ont été déployés, dispositifs mis en place, il y a depuis maintenant 1 an et demi, l'état d'urgence qui est en vigueur. Est-ce que vous vous sentez malgré tout en sécurité?
Bon, Yohan, franchement, on voit que, n'est-ce pas, au niveau de quelques carrefours, des policiers postés sur des pick-ups avec des mitrailleurs. Mais moi, je vous dis, hein, très franchement, je sors aussi souvent la nuit parce que je travaille la nuit. Alors, une fois, je vous raconte quelque chose. Je rentrais dans un hôtel situé de Bamako. Ils ont pris le véhicule. Je mangeais un pick-up. Ils ont regardé par derrière, il n'y a rien. Ils ont regardé à l'intérieur, ils ne voient rien. De visu, hein. Ben, ils m'ont dit de passer. Moi, j'ai dit, mais vous regardez pas sous les sièges? J'ai dit, mais regardez sous les sièges. Et ils sortent comme ça.
Mais à votre avis, Nama, il y a votre témoignage et celui d'Ali qui se concorde. Enfin, Ali parlait du campement situé à quelques kilomètres de Bamako. Vous faites référence à cet hôtel quelque part dans la capitale. À votre avis, c'est de l'incompétence ou c'est de la négligence?
C'est du laxisme, c'est de la négligence et on est léger malheureusement. Bon, c'est pas propre peut-être aux Maliens, aux Africains de façon générale, et les Maliens plus, on est léger sur pratiquement tout, sur les mesures, surtout en ce moment-là. C'est ce qu'il faut éviter parce qu'on a même l'habitude de voir certains militaires ou certains policiers assis mitrailleur et comment dirais-je, contre le mur, pied levé et en train de prendre du thé.
Ouais, donc voilà. Les mesures de sécurité sont clairement insuffisantes selon vous. Merci de ce témoignage, Nama. Merci à Ali. Les propos du ministre de la Sécurité, vous l'avez certainement entendu hier sur RFI, il disait « Bamako est aussi sûr que toutes les villes du monde. Nous prenons toutes les dispositions qu'il faut, mais nous ne pouvons pas dire que le risque est zéro. Ce n'est pas possible de dire cela aujourd'hui. » Fin de citation. Bonjour Oumar.
Bonjour.
Vous êtes à Sikasso et pour vous le gouvernement est clairement responsable de ce qui s'est passé.
Tout à fait. Et je l'ai dit raisonnant mais précisant, ça. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la priorité c'est la sécurité. Et on ne peut pas se permettre de créer, de susciter des situations qui créent des remous sociaux et des situations également qui jouent sur la vigilance des autorités. Parce qu'en réalité, je parle des autorités de sécurité. Lorsqu'on se permet de vouloir faire un référendum aujourd'hui, alors qu'on sait que beaucoup de personnes savent aujourd'hui que le problème du Mali, il est plutôt sécuritaire que d'autres constitutionnels. Mmh. Et si on se met dans ce sens à provoquer ces remous sociaux, les assaillants vont profiter de ces situations-là. Et c'est ce qui s'est passé justement à Bamako. Et si jamais on n'arrête pas ça, il faudra s'attendre au pire. Je pense que le gouvernement est responsable, pas parce qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir, mais parce qu'aujourd'hui ils ont des politiques, ils ont des visions qui ne sont pas compatibles avec la réalité que nous vivons au Mali ici. Et c'est fort regrettable. Parce que quand vous regardez aujourd'hui même à Koro, où j'ai été pendant 4 ans, où j'ai eu à travailler, aujourd'hui il y a un gros conflit qui est en train de bouillir là-bas, des Peuls et des Dogons. Donc tout ça c'est des situations auxquelles le gouvernement doit faire face et non créer des situations de frustration où les gens vont se dire voilà, le président il veut briguer un autre mandat, il veut renforcer son pouvoir en créant le Sénat et toutes ces choses-là. Pour moi aujourd'hui, moi mon indignation c'est dans ce sens. Je ne crois pas que le président de la République aujourd'hui puisse réellement faire face à cette situation, parce qu'on a vraiment l'impression que les choses le dépassent.
Indignation que partage N'Golo sur la page Facebook. Cette énième attaque djihadiste démontre que l'heure n'est pas à la révision constitutionnelle, mais plutôt à la restauration de la sécurité nationale du nord au sud. On ne se sent plus en sécurité, nous dit cet auditeur. En tant que Malien, je suis vraiment consterné et abasourdi par ces actes ignobles et barbares. Plus jamais ça. 3 points de suspension. C'est la fin du message de cette auditeur, donc sur la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous êtes à Bamako. Quelle doit être la riposte de l'État malien après cette nouvelle attaque près de Bamako?
Et c'est malheureux de le dire, mais apparemment l'État ne semble pas avoir pris toute la mesure de la question. Parce que c'est très malheureux de le dire, et c'est un État qui vient toujours en pompier, c'est le médecin après la mort. Or, c'est des situations qu'il faut anticiper.
Mais vous savez bien, excusez-moi Abdoulaye, vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, hier, le ministre de la Sécurité a dit que plusieurs attentats avaient été déjoués ces dernières semaines.
Oui, mais c'est ce qui s'est dit, mais nous, ce n'est pas ce que avec ça que le peuple travaille. Le peuple travaille avec ce qui vient de se commettre, de ce qui vient d'être fait, mais pas par rapport à des déclarations qu'on nous fait croire tous les jours qu'on a dévié, on a dérouté ceci ou cela. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de se focaliser sur les questions sécuritaires. Mais or, aujourd'hui, cela ne semble pas être la vision de ce gouvernement qui est vraiment assez léger, assez négligent par rapport au traitement des questions sécuritaires.
Pourtant, Anthony Fouchard en parlait tout à l'heure, la mise en place il y a un an et demi, un peu moins d'un an et demi, une grosse année maintenant, des Forsat, les forces spéciales antiterroristes, ces hommes que vous devez de temps en temps, j'imagine, croiser dans les rues de Bamako.
Monsieur Juan Gomez, une force spéciale composée de 180 éléments pour quadrer tout le territoire national, vous en conviendrez avec moi que cela est insignifiant et insuffisant par rapport à tout ce que le pays vit actuellement. 180 pays pour faire conjurer toute cette menace terroriste, moi je me dis c'est de la poudre aux yeux en réalité. Cela n'a aucun impact aujourd'hui sur la sécurité des Maliens, que ce soit les Maliens du Nord aussi bien que ceux du Sud.
C'est franchement, et un auditeur vient de nous dire qu'il y a un conflit intercommunautaire qui est en cours à Koro, entre Dogon et Bambara. Et pour le gouvernement, cela relève de l'ordre normal des choses parce que ça ne lui dit rien. Le gouvernement ne fait rien pour pouvoir gérer de telles situations. Nous, on s'est dit aujourd'hui, nous sommes face d'un gouvernement qui ne prend pas du tout à
bras-le-corps. Vous avez l'impression qu'il ne prend pas à bras-le-corps la lutte contre le terrorisme. Restez en ligne, Abdoulaye. Je vous redonne la parole dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Solo. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous partagez l'analyse très critique d'Abdoulaye ou pas?
Bon, je ne partage pas l'analyse d'Abdoulaye comme beaucoup de mes prédécesseurs aussi. Aujourd'hui, le terrorisme fait désormais partie de notre environnement. Nous ne devrons pas toujours responsabiliser l'État malien. Les interrogations qui se posent sont les suivantes. Nous devrions savoir quelles sont les réelles motivations de ces djihadistes, qui les financent, et quelles sont les réponses adéquates que nous devrons apporter à cela.
Mais est-ce que vous avez l'impression, Solo, que les réponses proposées par les autorités et par les autres pays de la sous-région, car n'oublions pas que le Niger, le Burkina Faso, pays limitrophes, sont également concernés par les attaques djihadistes, est-ce que vous avez l'impression que les solutions proposées sont appropriées?
Bien sûr, les solutions proposées sont appropriées. Nous avons remarqué que le gouvernement du Mali et l'État est en train de tout mettre en œuvre pour renforcer notre dispositif sécuritaire à travers le renforcement des services de renseignement, à travers la coopération militaire avec la MINUSMA, les forces Barkhane qui sont là. Le terrorisme aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. C'est les attaques ne sont pas prévisibles comme à tout niveau. Donc je pense que nous devrions nous donner la main. L'air n'est pas aux critiques et l'air n'est pas vraiment à tout ce qui s'ensuit, mais l'air se trouve maintenant à la cohésion sociale. Oui. Aujourd'hui, les victimes qui sont parties, nous devons tous nous mettre, nous devons tous nous tenir devant leur âme pour souhaiter vraiment nos condoléances, nos plus appréciées aux familles des disparus. Donc, aider le gouvernement à plus de renseignements.
Donc, vous dites, l'heure n'est pas la polémique. Merci, Solo. Abdoulaye, je reviens vers vous, comme promis. Un petit mot de conclusion.
Oui, l'air est à la cohésion. Faudrait-il que les pouvoirs publics comprennent cela et que ces pouvoirs-là arrêtent de distraire le peuple à travers des actions qui n'ont aucun intérêt, aucun sens aujourd'hui pour l'épanouissement de cette population. L'air est à la sécurité aujourd'hui, au renforcement des aspects sécuritaires, mais pas à une révision constitutionnelle qui nous distrait, qui n'a
aucun... Vous l'avez déjà dit, donc on tourne un peu en rond. Je voudrais que d'autres auditeurs puissent profiter évidemment de l'antenne d'RFI pour s'exprimer et témoigner. Merci à vous. Hein. Bonne journée, Abdoulaye et Solo. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Il nous reste deux petites minutes. Vous disiez au Standard être très inquiet, d'autant que vous fréquentiez le camp Kangaba.
Effectivement, je fréquente très souvent le campement Kangaba avec ma famille et je suis très attristé de voir que de tels actes puissent se produire dans de tels endroits. Cet endroit est aussi fréquenté par les expatriés que par les Maliens et du coup, nous, on est très inquiets parce que si on écoute notre chef de l'État qui nous parle de terrorisme résiduel, notre cour constitutionnelle qui nous parle d'insécurité résiduelle, mais moi je me demande dans quel pays nous vivons. Est-ce qu'ils savent qu'ils parlent à 17 millions de personnes et qu'ils ont la sécurité de 17 millions de personnes entre leurs mains? Je me pose des questions.
Ouais. Et pourtant, il y a quand même un moyen, des moyens mis en place pour garantir la sécurité. Tout à l'heure, un auditeur parlait de la force française Barkhane. Il y a aussi l'armée malienne. Il y a aussi la MINUSMA, la mission des Nations Unies déployée sur le terrain. Visiblement, on a l'impression que ça n'impressionne pas les djihadistes.
Actuellement, le problème, moi je pense qu'il doit être géré en amont. Si aujourd'hui toutes ces forces conviennent avec l'État malien de faire en sorte que tout le monde dépose les armes, tous les groupes armés déposent les armes, celui qu'on verra avec une arme sera traité en ennemi. Et traité et conformément à cela. Donc moi je pense que on fait de la politique de l'autruche. L'État distrait le peuple malien, la communauté internationale nous distrait.
La communauté internationale distrait. La France, par exemple, pour parler de la France, a proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution justement pour permettre de soutenir politiquement et financièrement la force du G5 Sahel, force militaire panafricaine justement pour lutter contre le terrorisme. Mais les États-Unis, eux, de leur côté, bloquent et ne veulent pas voter cette résolution. Merci à tous de votre fidélité.